Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre mission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi 29 avril 2017. Il est 3h du matin à Jakarta maintenant. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journal suivi de la revue de presse. Aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission la rubrique distorsion, c'est-à-dire le magazine musical indonésienne. On va écouter maintenant le journal pour aujourd'hui. C'est celui du 10. Voici le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs du TIS, voici le bulletin d'information en titre « Les utilisateurs des médias sociaux devraient avoir la responsabilité de ce qu'ils transmettent ». Le Canada va construire le centre d'éducation de l'industrie de maintenance des aéronefs à Riau. Voici le bulletin complet. Les médias sociaux sont devenus l'instrument le plus apprécié de nombreuses personnes dans le monde pour transmettre leur expression. Les utilisateurs des médias sociaux devraient avoir la responsabilité de ce qu'ils transmettent. Face à donc effet positif et négatif. Il a été déclaré par l'ambassadeur d'Australie en Indonésie, Paul Grigson, dans le forum diplomatique tenu par la Voix de l'Indonésie jeudi.
I'm a fan of social media. I think it's very important that people in the community be able to express their views. It's a way for people.
L'ambassadeur Grigson a également déclaré que les utilisateurs des médias sociaux doivent savoir ce qu'ils ont dit doivent être fait et c'est un fait réel avant que l'information soit diffusée. Il a demandé aux utilisateurs des réseaux sociaux de penser d'abord avant d'envoyer le message qui est la vérité. Canada met sur pied immédiatement un centre éducatif dans la zone industrielle à Bintan, Rio Island. Le centre de formation sera axé sur l'entretien des aéronefs et le secteur de réparation ou d'entretien de l'industrie de réparation et de révision générale industrie MRO. Le ministre Erlang Hartarto, dans sa déclaration officielle à Jakarta, a annoncé jeudi la formation professionnelle spécifique de l'industrie MRO encouragera le secteur de l'aérospatial en Indonésie. De plus, l'industrie MRO dans un nouveau pays est en mesure de répondre à 30% de tous les besoins d'entretien, d'aéronefs et de réparation en Indonésie. Erlang Hartarto a affirmé l'industrie MRO en croissance rapide en Indonésie. Il exige beaucoup de ressources humaines prêtes. Il a ajouté qu'il avait rencontré l'ambassadeur du Canada en Indonésie, Peter MacArthur, à Jakarta jeudi. À l'occasion, a également discuté du Canada investi dans le secteur de l'électricité. La publication des licences d'affaires de la Société de transport maritime et la Délivrance des licences d'opération spéciale de l'entreprise du transport maritime peuvent être soumises en ligne à partir de 2 mai. Le chef du conseil de coordination des investissements BKPM, Thomas Trikasi-Lembong, dans un communiqué de presse, vendredi a dit que ce système de licence de transport maritime est le résultat de l'intégration de l'échange des données entre le ministère des Transports et le conseil de coordination des investissements facilité par le ministre des Communications et des Technologies de l'Information. Il explique que l'intégration du système d'échange des données avec le ministère des Transports aidera grandement à rationaliser le processus à permis d'affaires. Il a admis que l'avenir BKPM continuera à coordonner dans le cadre de l'intégration des échanges de données avec d'autres ministères pour améliorer la qualité des services de licence basés sur la technologie de l'information. Le ministère des Affaires étrangères a apprécié la ratification du projet de loi sur la ratification de l'accord entre l'Indonésie et les Philippines sur la détermination des limites de la zone économique exclusive par le Parlement à Jakarta jeudi. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Jakarta, Manatanase, a déclaré récemment ainsi la ratification d'une frontière maritime indonésienne avec le pays voisin est achevée. Il a souligné que le projet de loi démontre l'engagement du gouvernement aux solutions des questions frontalières avec le pays voisin de l'Indonésie. Il a ajouté avec la ratification de cet accord, l'Indonésie aura une limite de la zone économique exclusive plus claire. Ceci est important dans la gestion du territoire souverain indonésien, en particulier la gestion des ressources biologiques, la marine et la pêche. En outre, la législation de cet accord donne également la sécurité juridique de faire activité économique, y compris la gestion des droits des pêcheurs indonésiens dans cette zone, conformément aux dispositions dans la législation. Le dernier, l'Indonésie et les Philippines dirigeront le Forum international de la coopération maritime entre les membres de l'ASEAN plus 8 autres pays, y compris la Chine et les États-Unis au 4e trimestre cette année à Jakarta. Le directeur général de la coopération de l'ASEAN du ministère des Affaires étrangères de l'Indonésie, José Tavares Adiamani, les hauts fonctionnaires seniors de l'ASEAN avaient convenu de discuter des questions maritimes à Jakarta. La question maritime est devenue l'une des priorités pour le gouvernement du cabinet de travail du président Joko Widodo. Selon José Tavares, ce forum est une initiative de l'Indonésie pour intensifier la coopération maritime en termes de sécurité, de protection de l'environnement, la question régionale, ainsi que la gestion des catastrophes. Il a confirmé que la sécurité maritime est l'une des principales questions en Asie du Sud-Est. Dans cette zone, il y a la voie de circulation de marchandises principale qui est passée par 50% des navires de marchands de la monde. Chers auditeurs d'Odyssée, c'était notre journal aujourd'hui.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id. Chers amis, nous continuons notre émission avec la revue de presse. Nous commençons avec l'éditorial du journal Sindo le 27 avril et un petit titre: couper la licence d'exploitation du pétrole et du gaz. Au plus tard, à la fin de 2017, tous les permis d'activité pétrolière et gazière sont menés en ligne. En outre, le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales a coupé les permis de 42 à être 6 licences. Il y a 2 ans, les investisseurs qui veulent investir dans les activités pétrolières et gazières doivent remplir 104 autorisations. L'an dernier, il n'y a que 42 licences. Et sous la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources minérales, Ignatius Jonan, les investisseurs qui veulent faire des affaires dans le secteur du pétrole et du gaz doivent simplement passer 6 autorisations. Le gouvernement espère que la simplification du permis puisse stimuler les investisseurs d'exploiter le secteur du pétrole et du gaz qui est maintenant dépourvu de passionnés car entravé par les problèmes de licence. La question de la licence est le début de difficultés des investisseurs pour investir dans tous les secteurs. Le problème est un problème classique qui est encore difficile à surmonter. Le nombre de la zone de travail de forage pour le pétrole dans ce pays diminue chaque année. L'une des raisons est les lentes et de nombreux types d'autorisations qui doivent être pris en charge par les investisseurs. La simplification d'autorisation des activités pétrolières et gazières par le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales devrait être un miroir pour les agences ou ministères. Tous les partis espèrent que cette coupe puisse bientôt porter ses fruits. Les investisseurs n'ont pas hésité à investir dans le secteur pétrolier et gazier. Ensuite, l'éditorial du quotidien Media Indonesia, le 25 avril, a pour titre « Escorter le projet de la loi électorale ». Le Parlement doit terminer la discussion sur le projet de loi de la mise en œuvre des élections le 28 avril. Mais jusqu'à 3 jours à la date limite, il y a encore beaucoup de questions cruciales qui n'avaient pas encore été arrêtées. Jusqu'à présent, la discussion du projet de la loi électorale laisse encore environ 1000 points dans la liste des problèmes d'inventaire qui n'a pas été discuté. De plus, il y a un certain nombre de questions cruciales qui, bien que déjà discutées, n'ont pas obtenu un accord. Ainsi, c'est impossible que le comité spécial du projet de la loi électorale du Parlement et le gouvernement a été en mesure de terminer la discussion conformément à une date prédéterminée. En outre, le Parlement entamera une pause de 2 semaines après le 28 avril et se réunira à nouveau le 15 mai. C'est plus réaliste que le projet de la loi électorale est fini discuté à la fin de mai. Par conséquent, le Parlement et le gouvernement ne doivent pas s'attarder de discuter du projet de la loi. Si le projet de la loi électorale a été adopté après mai, vous pouvez parier la tenue d'élections en 2019 dans un état d'urgence parce que le temps ne suffit pas pour les organisateurs, dans ce cas la Commission électorale générale, KPU, pour préparer les étapes de façon optimale d'élection. Selon les médias indonésiens, le comité devrait discuter sérieusement sur le projet de la loi électorale pour éviter la fraude électorale. La loi électorale doit être un instrument pour réaliser les élections honnêtes, justes et démocratiques. Par conséquent, les gens doivent être cohérents d'escorter la discussion du projet de loi électorale. Nous terminons notre émission avec l'éditorial du journal Republika et un petit titre, ne pas venir avec une nouvelle raquette. Les efforts de la Commission 3 du Parlement à proposer le droit d'enquête contre la Commission d'éradication de la corruption, KPK, commence à rouler à la réunion plénière de clôture pour la 4e période de séance pour les années 2016-2017, le jeudi 27 avril. Le droit d'enquête est présenté par la Commission 3, car la Commission d'éradication de la corruption KPK a refusé d'ouvrir les dossiers d'inspection sur l'ancien membre de la Commission 2 du Parti Hanura, Myriam S. Haryani, en dehors des affaires judiciaires de la carte d'identité électronique. Le droit d'enquête proposé par la Commission 3 a aussi résulté pour et contre entre les factions au Parlement. Il y a des factions qui soutiennent et celles qui rejettent. Le même jour, KPK a également annoncé la mise en place des membres du Parlement de la faction Hanura, Myriam S. Haryani, au registre des personnes recherchées. KPK a aussi envoyé une lettre à la police d'Indonésie de se joindre à la rechercher et l'arrêter. La commission a mis Myriam comme registre des personnes recherchées après qu'il ait déclaré absent de l'examen 3 fois. Selon Republika, l'effort pour nettoyer l'Indonésie contre le crime de corruption ne peut être fait que par la KPK. Tous les éléments de la nation doivent assumer la lutte contre la corruption. Au cours de la corruption continue de saper cette nation, le rôle de KPK doit être renforcé. Par conséquent, KPK devrait également continuer à prouver sa sincérité envers les criminels sans discernement et prendre au piège sélectif. Si la corruption est laissée sans contrôle, l'avenir de cette nation sera de plus en plus flou. Bien sûr, nous ne voulons pas que cette nation assombrisse parce que la pratique des crimes de corruption continue en Gouaumont. Chers amis, c'était la revue de presse.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Ces auditeurs, nous allons vous présenter maintenant le programme d'aujourd'hui dans l'histoire de la Voix d'Indonésie, l'édition 29 avril. Nous allons commencer le 29 avril 1991. Yuli Sulianti Saroso, les experts médicaux indonésiens, est décédé. Professeur Yuli Sulianti Saroso est un médicament indonésien important. En 1951, il a commencé sa carrière au ministère de la Santé. Il a occupé divers postes en chef de la protection maternelle et infantile, responsable des relations extérieures, chef adjoint de l'éducation, chef de la santé publique en milieu rural et de l'éducation de la santé des gens. Au cours de la lutte pour l'indépendance, Julie a essayé à préparer les médicaments et les alimentaires pour les poches de la zone guérilla à Tambun, Gresik, Demak et Yogyakarta, et il était arrêté par l'armée néerlandaise pendant 2 mois à Yogyakarta. Docteur Yuli Sulianti Saroso a été actif dans les organisations des jeunes et des filles indonésiennes, PPI. En 1947, Sulianti Saroso a représenté l'Indonésie dans le Congrès sur les femmes en Inde. Pour ses services, le docteur Yuli Sulianti Saroso a reçu de nombreux prix, entre autres l'étoile de Mahaputra Pratama du président en 1975, la déclaration du comité régional OMS de l'Asie du Sud-Est, la déclaration de la charte de l'OMS à Genève pour sa participation à l'éradication de la variole dans le monde. Julie Soliani-Sarasso est également l'une des deux femmes en tant que présidente de l'Assemblée mondiale de la santé, en plus de Rajkumari Amri Kaur de l'Inde. En l'honneur de ses fils, un hôpital de Jakarta a été nommé comme le nom que l'hôpital des maladies infectieuses de professeur Dr. Sulianti Sarasso. On change le 29 avril 1901, naissance de Hirohito. L'empereur du Japon Hirohito est né à Tokyo le 29 avril 1901, couronné le 25 décembre 1926 à la mort de son père Taisho. Il prend ce nom Soa, acteur majeur durant la Seconde Guerre mondiale. Hirohito détient toujours le record du plus long règne de l'histoire du Japon, 62 ans. Il meurt le 7 janvier 1989. Il était remplacé par son fils, l'actuel empereur du Japon, Akihito. On termine le 29 avril 1970, le mur de Berlin a commencé à être détruit. Le mur de Berlin est un mur qui sépare la frontière de Berlin-Ouest ou Berlin-Est et d'autres régions Est allemandes. Ce mur a été créé le 13 août 1961 par le gouvernement communiste et allemand sous la direction de Walter Ulbricht. Confiné, le mur de Berlin-Ouest est coupé exactement au milieu de cette ville et est devenu un symbole de la plus célèbre de la guerre froide. Beaucoup louent l'Ouest, en particulier la visite de la présidente des États-Unis pour condamner le mur, président JFK en 1963 pour venir parler sur la côte de ce mur. Puis en 1983, le président Ronald Reagan a également abordé ici et l'Union soviétique a condamné ce qu'il a appelé un « empire du mal » ou un « empereur du mal ». Ces auditeurs, c'était noté aujourd'hui dans l'histoire de la voix de l'ONICI à Jakarta pour l'édition ce soir, 29 avril. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et un petit titre. Investir en Indonésie est maintenant plus facile et plus rapide. L'ambassadeur malaise en Indonésie, Dato' Sri Zahrin Mohamed Hashim, a dit qu'investir en Indonésie maintenant est plus facile et plus rapide car des licences d'investir en Indonésie n'est pas par un processus complexe. De même, Mohamed Hashim a déclaré, dans une conférence de presse au ministère du Rural, du Développement Rural et de la Transmigration d'Indonésie à Jakarta, mercredi. L'ambassadeur Mohamed Hashim a ajouté, à présent, les entreprises de la Malaisie ont également aucun problème avec la main-d'œuvre en Indonésie. Selon lui, la société de la Malaisie emploie beaucoup de main-d'œuvre indonésienne. Il était sûr qu'avec une telle facilité, les compagnies malaisiennes vont investir plus en Indonésie. À l'heure actuelle, l'investissement total de la Malaisie en Indonésie a atteint 73,1 trillion roupies, soit 5,5 milliards de dollars américains. À la même occasion, le ministre du Rural, du Développement des Zones Défavorisées et de la Transmigration, Eko Putra Sanjoyo, a expliqué que la facilité dans l'investissement ne peut pas être séparée du programme de politique économique qui a été émis par le gouvernement. Selon lui, la Malaisie est engagée à investir en Indonésie d'un montant de 55 trillions roupies dans le secteur des infrastructures, y compris l'électrification, les routes, les ports et les biens. Le ministre Eko a dit l'engagement est dit quand il a rencontré des hommes d'affaires du Forum Indonesia-Malaysia Business Networking il y a quelque temps. Un tel forum est une initiative étant suivie sur les ordres du président Joko Widodo qui a déterminé Eko Putro Sanjoyo comme liaison d'investissement pour la Malaisie. Ce forum d'affaires qui a eu lieu le 20 avril à 21 avril à Kuala Lumpur a réuni 14 entreprises d'Indonésie avec 12 entreprises malaisiennes. Le ministre Eko a expliqué qu'un certain nombre de projets d'investissement sont réalisés par des sociétés telles que ITL Corporation Berhad qui contribuent à la construction d'une centrale électrique à vapeur à la centrale de Tanjung Jati à Jepara, Java Central, avec une valeur de 3,2 milliards de dollars. En outre, la société Tenaga Nasional Berhad Malaisie, qui s'engage dans les infrastructures d'électricité, s'intéresse également à la poursuite du projet de la centrale à vapeur Pranap à Riau, qui avait été arrêté. Selon le ministre Eko, ce projet est très stratégique car il sera en mesure de fournir de l'énergie aux deux zones, la plupart de l'Indonésie, en particulier à Sumatra et en partie la Malaisie. L'ambassadeur Datuk Seri Zahrin Muhammad Hashim a apprécié l'initiative et l'étape proactive du gouvernement d'Indonésie, la gravité de l'engagement de la Malaisie d'investir davantage en Indonésie sera suivi par la tenue de réunions bilatérales entre les entreprises. Le plan, la délégation commerciale malaisienne se rendra en Indonésie au début de mai. Chers amis, c'était la mise au point. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel et ce soir, nous vous introduisons la nouvelle destination touristique à Lampung, à savoir le sommet d'or Suka Danaham. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Lampung est l'une des provinces à l'île Sumatra, dont la majorité de population est les pêcheurs et les jardinages. Outre riche en attractions culturelles, Lampung dispose aussi des sites touristiques naturels. L'une des nouvelles attractions naturelles à Lampung est le sommet d'or Suka Danaham. Il est dans une région vallonnée, au village Suka Danaham, district Tanjung Karang West, Régence, Bandar Lampung. Le sommet d'or Suka Danaham a le concept du tourisme de la nature et le café. Ici, on peut trouver de nombreuses installations intéressantes telles que les cafés en plein air, maisons d'arbres, ponts d'amour, belvédères et le jardin. Son emplacement dans les collines rend le sommet d'or Suka Danaham à de beaux paysages naturels qui peuvent rafraîchir les yeux, créer la tranquillité d'esprit, le cœur et l'âme. Car on nécessite seulement environ une et demi-heure de Bandar Lampung pour visiter le sommet d'or Suka Danaham, il y a beaucoup de touristes locaux et étrangers. Le meilleur moment d'être au sommet d'or Suka Danaham est la nuit. Ici, les visiteurs peuvent voir une vue magnifique sur la ville Bandar Lampung, comme une mer de lucioles, ciel parsemé de milliers d'étoiles, aussi bien le clair de lune ombragée. Mais bien sûr, le paysage pendant la journée est aussi beau, car du sommet Suka Danaham, vous pouvez profiter de trois sites à la fois, à savoir urbain, montagne et mer. Le site est propre, belle, confortable est cool. Au sommet d'Or Sukadanaham, il y a des cabanes et des maisons d'arbres pour voir les sites tout en vous relaxant. Pour entrer dans la zone du sommet d'Or Sukadanaham, le prix du billet par personne est 20 000 rupiah. Ce billet inclut le stationnement des véhicules. Si vous payez une visite au sommet d'Or, n'oubliez pas de goûter le fruit d'Orient doux vendu le long du chemin. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. À demain. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en beau titre. Je sens d'eau, alimentation alternative de poissons. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. La jacinthe d'eau, soit Eicornia crassip, est l'une des mauvaises herbes aquatiques dont la présence est souvent indésirable. La jacinthe d'eau est une plante originaire du Brésil et entrée en Indonésie en 1894 au jardin botanique comme plante ornementale. Autrefois, la jacinthe est une plante ornementale qui est aimée parce que les fleurs violettes sont très attrayantes comme un bassin d'agrément. Cette plante a la capacité très élevée de se reproduire végétativement, en particulier dans les régions tropicales et subtropicales. La jacinthe d'eau se propage facilement, même par la voie d'eau. Ces plantes sont aimées par le poisson car il offre une couverture de surface, l'ombre du fond de l'eau du soleil et de fournir un endroit pour les poissons à se cacher des prédateurs. Mais si le montant est trop, la présence de la jacinthe d'eau cause beaucoup de problèmes. En Indonésie, la jacinthe d'eau est étendue à toutes les eaux comme les réservoirs, les marais, les lacs et les rivières. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé un moyen qui est vraiment optimal pour la vitesse de combat de la croissance de la jacinthe d'eau. Par conséquent, beaucoup de gens essaient de tirer profit des jacinthes d'eau, dont en le bureau des pêches de Probolinggo, Javaès. Le bureau des pêches de Probolinggo Javaès a fait une percée et l'innovation a jonglé les jacinthes d'eau d'être les ingrédients d'aliments alternatifs pour poissons qui sont riches en protéines et vitamines. Le chef de la pêche de Probolinggo, Dedi Isfandi, a dit « Jusqu'à présent, des jacinthes d'eau sont connues comme mauvaises herbes, mais ils peuvent être utilisés comme ingrédients d'aliments pour poissons. On utilise jacinthes d'eau qui couvre beaucoup de marais Tirta Sumber Kedawung, district Leches, Probolinggo. Dedi a dit que cette innovation se fait sur les conseils du région de Probolinggo. Les jacinthes d'eau qui couvrent les marais Tirta peuvent être utilisés comme substitut pour l'aliment de poissons. Le chef de la division de l'aquaculture, Hari Pursulistiono, a décrit que l'utilisation de la jacinthe d'eau dans les matériaux pour l'alimentation des poissons peut se faire par trois méthodes, à savoir la fermentation, la chimie, soit en silage chimique, et physique, soit séché et broyé. La méthode physique est plus facile que d'autres, mais ne modifie pas la teneur en protéines. Cependant, à travers la méthode de fermentation, on peut ajouter des protéines, des fibres, réduire le robuste si facilement digéré par les boissons. Selon Harry, on utilise un procédé de fermentation pour l'utilisation de la jacinthe d'eau dans le marais Tirta en le stockant dans un plastique scellé pendant 8 jours. Selon Harry, la fabrication d'aliments pour poissons avec la méthode de fermentation prend longtemps, mais les résultats sont bons, mangés par les poissons. L'utilisation de la jacinthe d'eau pour les ingrédients d'alimentation de poissons est conçue pour exploiter le potentiel local et de réduire la jacinthe d'eau au marais Tirta pour perturber l'écoulement de l'eau. Grâce à cette innovation, on souhaite que les gens puissent profiter de la jacinthe d'eau. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Rendez-vous demain à la même heure et même fréquence. À demain!
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Ces auditeurs de tous du monde entier, on vous raconte encore dans notre programme quotidien La Voix de l'Indonésie dans le magazine musical indonésien. Ce soir, on vous présente un débutant de l'industrie de la musique indonésienne, s'appelle Wendy Mark. Il est né le 25 juin 1994 au Ketapang, Kalimantan Central. Wendy a donné un concept différent pour l'industrie de la musique. Avant que nous connaissions plus loin avec lui, on écoute sa première chanson intitulée Ada Saatnya.
Aku putuskan jauhi dirimu, jauhi kehidupanmu. Mungkin terlihat egois, tak begitu. Aku hanya ingin sembuhkan luka. Lupakan rasa padamu. Ada saatnya kita akan berjumpa, namun tak sekarang, karena ku takut rasa itu kembali. Ku takut kecewa karena kau tak bisa cinta. Maafkan aku tak ada menghindar, menghilang dari kehidupanmu. Ada saatnya kita akan berjumpa, namun tak sekarang karena ku takut rasa itu kembali. Oh, ku takut kecewa.
Les auditeurs, c'était notre première chanson chantée par Wendy Mark, intitulée « Ada Saatnya ». Quand il était enfant, Wendy Mark, qui habite dans la petite ville de Ketapang, ne peut rêver de devenir un chanteur. Jusqu'en l'année 2010, Wendy a déménagé à Jakarta et a continué à pratiquer à chanter. Malgré l'amélioration de ses capacités vocales, avec 4 fois échoué dans l'audition de divers concours de chant à la télévision.
When I was still a child, I have this dream. I want to be a singer.
Quand j'étais encore petite, je rêve, je veux être un chanteur. Quand je chante, et je continue à travailler pour jusqu'à en 2012, j'ai étudié à Jakarta et continue à pratiquer. Et j'ai auditionné pour la télévision 4 fois et mais malheureusement, j'ai échoué. Bien qu'elle ait échoué, Wendy Mark ne désespère pas. Il est enfin à choisir une carrière dans la chaîne musicale à sa manière, qui a formé un groupe indie et joué à un centre commercial. L'étape par version de toujours est enregistrée et téléchargée sur le site YouTube, attirant ainsi l'attention du questionnaire et une étiquette qui abrite jusqu'à présent. Wendy Mark a été offert d'être un musicien solo et a eu l'occasion de sortir son premier single intitulé « Il est temps » en 2016. Puis en octobre de la même année, Wendy a sorti un single intitulé « Le romance ». Un nouveau single est sorti en mars 2017 intitulé « L'amour une fois ». Ses auditeurs, on écoute maintenant la chanson de Wendy suivante intitulée « Le romance ».
Matanya bayang membekas terus mengganggu. Ini dia buatku bertanya, mungkinkah dia yang selalu kutunggu. Ingin ku hentikan waktu, menikmati indah senyumnya yang selalu mampu buatku tak berkutik dan ku dekatnya. Oh, oh, oh. Cinta hadir tak sengaja. Walau
Wendy Mark a choisi le genre de chanson pop parce qu'elle pense que ce genre est si populaire et facilement accepté par le public. Ne se contentant pas que Wendy Mark présente également que la danse dans tous les états de l'action. Ainsi, le deuxième single intitulé Romance est la One Love, appelée une chanson de danse ou la musique pour la danse. Il a été délibérément fait pour que le public se souvienne de Wendy Mark, non seulement en tant que chanteur, mais aussi en danseur.
I will focus on pop, but it is a little bit different.
Je me concentrerai sur la pop, mais c'est un peu différent. Parce que Wendy Mark a l'habitude de chaque fois que je me produis sur la scène, je ne chante toujours, je danse aussi. C'est pourquoi mon deuxième single et troisième single est un peu de chansons de danse. Que les gens puissent imaginer où chez Wendy Mark, il n'est pas seulement un chanteur, mais il est aussi, il peut danser. Peut-on le penser, Wendy Mark affecté par le genre de musique K-pop qui combine le chant et la danse. Cependant, Wendy Mark a admis qu'il a influencé plusieurs musiciens indonésiens et dans le monde depuis l'enfance, comme Glenn Fredly, User, Jessie J et Beyoncé étaient tous chantés et dansés sur chaîne. Bien que le concept de la chanson accompagnée de la danse pense encore un peu à transférer à la communauté indonésienne, Wendy Mark reste convaincu qu'il peut profiter du concept. Chers auditeurs, enfin, nous terminons notre programme ce soir. On écoute une dernière chanson de Wendy Mark intitulée Une fois l'amour. Bonne écoute et au revoir.
Jangan pikir kau tak sempurna. Buat ku tinggalkanmu Karena ku tak putus sempurna Yang ku butuh kamu Takkan ku lelah Yakinkan hatimu
Hatimu, oh, sekali cinta ku.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
nanti.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.